I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace où l'on parle de la planète Mars et d'Opportunity en compagnie de notre invité François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes François Forget, chargé de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous avez été détaché à la NASA pendant 2 ans pour travailler sur les missions martiennes et vous êtes membre de l'équipe scientifique de la sonde européenne Mars Express qui tourne toujours autour de la planète rouge. Alors la seconde mission américaine 2004 se pose le 25 janvier 2004. Elle s'appelle Opportunity, c'est la sœur jumelle de Spirit dont nous avons parlé dans le précédent podcast. Opportunity se pose au fond d'un petit cratère de 22 mètres de diamètre. C'est une mission dont on a tout de suite l'image, une image fort surprenante. Qu'est-ce que l'on voit quand arrivent les premières images d'Opportunity sur ces images et comment, François Forget, on les interprète?
Les premières images sont vraiment très surprenantes. Il faut bien voir le contexte. Le contexte, c'est qu'on avait jusqu'à présent envoyé déjà 4 sondes, on avait 4 paysages sur Mars, les 2 Lander Viking, l'autre rover Opportunity, et puis auparavant aussi Pathfinder, la sonde Pathfinder. À chaque fois, ce qu'on voyait, c'était de vastes paysages avec des rochers relativement plats, et puis un peu de sable. Et alors là, on voit quelque chose de tout à fait différent. Pas de petits rochers comme d'habitude, on voit une espèce de pleine de sable très fin, très sombre, qui a gardé l'empreinte de chaque rebond des airbags. Alors c'est vraiment un paysage très étonnant. Moi j'avoue que ma mâchoire s'est décrochée quand j'ai vu les premières images. Et puis en particulier évidemment, à quelques mètres du rover, hein, les premières images montrent ça, on voit quelques roches un peu blanches et rapidement on comprend que ce sont des affleurements, ce sont pas simplement des cailloux qui sont tombés là, non, ce sont des affleurements de roches en place. Et c'est la première fois qu'on voit de telles roches dans un endroit sur Mars tout simplement, de vue in situ, et c'est tout à fait spectaculaire, d'autant plus qu'on comprendra par la suite rapidement que ce sont des roches sédimentaires avec des couches stratifiées, et elles sont tout à fait exceptionnelles.
C'est un hasard extraordinaire que de tomber en plein milieu d'un petit cratère, parce qu'il n'est pas très grand, 22 mètres de diamètre. On a d'ailleurs beaucoup de mal tout de suite à comprendre l'échelle, c'est un petit peu comme si on était au pied d'un muret, hein. C'est pas très haut.
Oui, au début on comprend pas parce que l'horizon partout est beaucoup plus haut que prévu. Partout où on regarde, rapidement on comprend, mais non, l'horizon est plus haut parce qu'on est au milieu d'un bol, et évidemment quand on est au centre d'un bol, l'horizon est pas à l'endroit prévu, donc c'est un petit cratère en forme de bol. Alors oui, c'est un hasard extraordinaire. Bon, alors il faut bien comprendre que l'atterrissage s'est fait protégé par des airbags, c'est-à-dire que vous avez la sonde qui est entourée par des gros airbags, ça fait une énorme boule de mousse, enfin de gonflé qui rebondit à la surface, qui va rouler, qui va rebondir plusieurs fois. Le premier bond est par exemple atteint la hauteur de plus de 30 mètres, hein. La gravité est un peu plus faible sur Mars, mais on a des rebonds successifs comme ça, elle se met à rouler, et puis un peu naturellement, c'est exactement comme au golf, elle va retomber, quelle chance sur ce site. Alors cela dit, ce paysage extraordinaire, c'est pas tout à fait un hasard, on n'avait pas une chance sur 1 million de tomber dans un paysage extraordinaire. En effet, ce site-là avait quand même été choisi grâce à des données qu'on avait obtenues depuis orbite, parce qu'on savait que c'est un endroit différent des autres. Pourquoi est-ce qu'il était différent? Alors on est dans un endroit qui s'appelle Meridianum, Sinus Meridiani, tout ce que vous voulez comme nom. Bon, entre nous, on l'appelle vraiment, tout le monde maintenant, on l'appelle Meridiani. Meridiani, ça veut simplement dire qu'il est quasiment situé à la longitude 0, hein. On pourrait l'appeler Greenwich ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est carrément quasiment la longitude 0. Et puis, on avait observé avec une autre sonde spatiale qui s'appelle Mars Global Surveyor, qui portait un spectromètre dans l'infrarouge thermique et qui essayait de détecter la minéralogie de la surface. Alors en fait, il s'est avéré que c'était difficile à faire à ces longueurs d'onde-là. Mais malgré tout, on a pu observer une roche très particulière qu'on appelle l'hématite. Bon, c'est un simple minerai de fer, mais qui normalement sur Terre se forme en présence d'eau liquide. Et on observait cette hématite que dans certaines régions extrêmement spécifiques sur Mars. On s'est dit quand même, ça c'est un indice intéressant, on va y aller pour voir qu'est-ce que c'est que cette hématite. Donc c'est ainsi qu'on a choisi ce site. Et donc en arrivant, effectivement, on arrivait sur un endroit très particulier, et rapidement on a en particulier compris que la surface sombre était recouverte de billes de billes d'hématite, donc d'espèces de petites billes de minerai de fer très particulières qui étaient là. Alors, à partir de là, Opportunity a commencé, a pu descendre de son étage d'atterrissage, et puis a commencé à pouvoir atteindre ces roches qui étaient à quelques mètres, et à explorer, et à essayer de comprendre leur nature. Alors là, c'était une grande surprise. Alors, bien sûr, ce sont des roches sédimentaires, mais en plus, ce sont des roches composées de sulfates. Donc de sulfates divers, bon, Opportunity n'est pas très très bien équipé pour exactement déterminer, mais on voit que ce sont des sulfates, sulfates de fer, sulfates de calcium, sulfates de magnésium, jusqu'à 40%. Donc les sulfates, ce sont des sels. Sur Terre, normalement, quand on voit des sulfates comme ça, ils ont été déposés lorsqu'un lac ou une mer s'est évaporée et a laissé derrière elle le sel qu'on connaît, mais aussi les autres minéraux en solution, et en particulier les sulfates. Donc ce sont ce qu'on appelle des évaporites. Lorsqu'on regarde attentivement, le rover comporte un microscope, différents spectromètres qui sont capables d'analyser la composition, on découvre que enchâssé dans ces évaporites, dans ces sulfates, on a ces petites billes d'hématite, qui sont des petites billes de la taille d'un petit pois, on va dire, de quelques millimètres, et qui sont des espèces de concrétions, et on pense là aussi qu'elles ont été formées en présence de liquide. Maintenant, lorsqu'on regarde avec la caméra et avec le microscope, on découvre d'autres choses. On voit que ces sédiments se sont accumulés comme ça en couches les unes sur les autres, mais que à certains niveaux, on retrouve ce qu'on appelle des couches en feston. Alors c'est un mot un peu compliqué pour simplement dire que ce sont l'équivalent des ridules qu'on observe sur n'importe quelle plage. Donc simplement, on voit que ce sont des couches de sédiments qui ont été accumulées là, normalement en présence de vagues, au bord d'un lac. On trouve ça très souvent sur Terre, et là, les géologues terrestres sont... certains d'eux-mêmes, ils disent bon, là c'est une accumulation qui s'est faite en présence de liquide avec un écoulement en surface. Alors c'est quand même une découverte extraordinaire. Donc à l'époque, ramdam médiatique, conférence de presse, et on annonce que Opportunity a découvert un endroit extraordinaire où l'eau a existé en surface, a altéré les surfaces. Effectivement, c'est un endroit extraordinaire. Alors l'histoire s'arrête pas là, parce que ça ce sont les premiers jours, les premiers mois de l'enquête d'Opportunity, et ensuite Opportunity va explorer la région et découvrir vraiment d'autres choses passionnantes, et voir d'autres choses passionnantes. Ce que rapidement Opportunity a fait, c'est de partir, donc sortir de son petit cratère et parcourir donc sur cette espèce de sol très sombre, une espèce de sable, et a pu rejoindre à 800 mètres de là un grand cratère, relativement grand, qui fait 130 mètres de diamètre, hein, c'est le Parc des Princes, peut-être, qui est un paysage assez extraordinaire. Sur le bord de ce cratère, on voit des espèces de petites falaises, bon, une dizaine de mètres de haut, et là encore, des falaises constituées de sulfates, de sédiments les uns sur les autres. Alors, encore une fois, là, un paysage extraordinaire, quelque chose qu'on a jamais vu sur Mars. C'est quand même, des falaises sur Mars, c'était un rêve pour nous, et j'avoue que je ne me lasse pas de voir ces images de roches éboulées, etc. D'autant plus qu'après avoir hésité, regardé un peu sur le bord, l'équipe du rover va décider de descendre dans le cratère. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors on a fait des tests, là-bas au JPL en Californie, on a mis une maquette du rover sur un plan incliné, on a essayé d'estimer si elle saurait remonter, si elle allait glisser, etc. Puis finalement la décision est prise de descendre la pente. La pente est assez forte, hein. Il y a 15%, 10%, quand vous êtes en vélo, c'est déjà quelque chose. Donc malgré tout, on descend dans le cratère, et c'est très important de pouvoir descendre parce que ce cratère-là est plus profond, et ce que l'on comprend, c'est que on a donc une surface couverte de sable, et en dessous, on a ces roches riches en sulfate qui témoignent d'un passé. Et ce cratère-là étant plus profond, on peut descendre plus loin dans le passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette région. On avait vu dans le premier petit cratère que, eh bien, on avait eu ces petites dunes, etc., ces dépôts en présence de liquide. Là, on peut descendre plus profond. Alors, on retrouve toujours ce sulfate. Par contre, on voit qu'en dessous de ce niveau déposé en présence de liquide, on retrouve des sédiments qui évoquent plutôt simplement des dunes déposées par le vent, des dunes éoliennes, des dunes complètement figées, des dunes, on appelle ça des dunes fossiles, qui datent de plusieurs milliards d'années, hein, c'est quelque chose de très très ancien, donc qui ont apparemment été posées là, parfois en présence de vent, et puis à certains étages, en présence d'eau. Donc on élabore à partir de toutes ces découvertes, je ne vais pas détailler, un scénario, on imagine un environnement, il y a 3,5, 4 milliards d'années, un environnement où où on avait des dunes avec de l'eau, peut-être des nappes souterraines qui remontaient parfois jusqu'à la surface, qui envahissaient les zones entre les dunes. Ce sont des environnements qu'on connaît sur Terre, au Brésil, aux États-Unis, il y a des zones comme ça, et qui sont très intéressantes et qui créent facilement donc des dépôts d'évaporite du style sulfate. Voilà le scénario qu'on élabore à partir de là.
Comment avez-vous les moyens de dater ce que vous observez ? S'agit-il de déduction ou y a-t-il à bord de ces engins des éléments, des expériences qui permettent d'avoir une idée des temps écoulés des sédiments, par exemple, que vous observez ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors non, malheureusement, on n'est pas capable de dater une roche en l'analysant, même avec les laboratoires, avec les instruments qu'on peut envoyer là-bas. On sait le faire sur Terre, on le met en laboratoire. Des instruments très sophistiqués, mais qui sont des mesures extrêmement difficiles à base d'isotopes, etc. Là-bas, sur Mars, on ne sait pas le faire. Alors, comment on mesure ? Eh bien, simplement, on regarde, on compte finalement les cratères qu'il y a dans la région. Quand une surface est récente, par exemple une coulée de lave qui aurait quelques milliers d'années, c'est relativement récent à l'échelle géologique, eh bien, depuis 1000 ans ou quelques milliers d'années, on n'a pas eu de météorite qui a pu tomber à cet endroit-là. C'est le cas sur Terre. Sur Terre, on connaît très peu d'endroits où il y a des traces de météorites. Pourquoi ? Parce que la surface est généralement très récente. Par contre, sur Mars, la surface est plus ancienne. Et par exemple, dans ces zones-là, on a une surface tellement ancienne que l'on voit un peu partout des traces de cratères, de gros cratères, de petits cratères. Il y a toute une science qui s'élabore autour de ça. Et on sait que quand on a autant de cratères sur une surface, elle doit dater de telle date. Comment on connaît telle date ? Ah, c'est parce que quand même, on a pu ramener des échantillons d'une surface très ancienne qui n'est pas trop loin de chez nous, c'est depuis la Lune. Sur la Lune, il y a de nombreuses traces de cratères, on a ramené les échantillons, on les a datés grâce à des méthodes très très compliquées, et on peut dire, on fait quelques corrections, mais on dit bon voilà, quand il y a telle densité de cratères au mètre carré ou à l'hectare sur une surface, sur la Lune, elle a tel âge. En prenant en compte une correction liée à sa taille, où elle est dans le système solaire, etc. Sur Mars, ça fait tel âge. Alors c'est une science qui est assez difficile. Néanmoins, on arrive comme ça à estimer que la zone où est Opportunity date de 3,2-3,5 milliards d'années. On arrive à voir quand même aussi qu'elle est un peu... Elle n'est pas si ancienne que ça sur ce terrain très ancien, sur toute cette partie de Mars, toute cette zone de Mars qui date de plus de 3,5 milliards d'années. On peut aussi regarder les âges relatifs. En particulier, si vous connaissez un peu Mars, vous savez qu'on a vu des traces de lits de rivières asséchées. Et un petit peu plus au nord, au sud plutôt, au sud du site où est atterri Opportunity, toute cette zone, apparemment, qui est une accumulation de dépôts de sulfate, on va dire, eh bien, recouvre et repose sur un autre terrain sur lequel on observe des anciennes rivières. Donc on pense que quand même c'est effectivement quelque chose qui date de la genèse de Mars, mais disons de la fin de la genèse de Mars. Mmh. Donc ce qu'on appelle le fin Newquien, l'Hespérien, ce sont des zones un peu plus disons la fin de la genèse de Mars, il y a 3 milliards d'années, 3,5 milliards d'années.
Alors, on consacrera bien évidemment des podcasts à cette histoire de Mars détaillée en chapitres, mais pour rester sur Opportunity, François Forger, vous le notez bien, c'est la promenade, ou en tout cas la découverte suppose des pilotes, et l'utilisation à distance des moyens pour faire bouger Opportunity n'est pas simple. La navigation à partir du GPL de ces sondes, en tout cas celle-ci et Spirit, c'est aussi quelque chose de complexe, parce qu'il faut savoir quand on s'arrête, quel rocher on analyse, quel parcours on décide, quelle stratégie au jour le jour peut-être fabrique-t-on pour une découverte utile scientifiquement pour la NASA. Ça aussi c'est un exploit.
Oui, ce sont des rovers qui sont semi-autonomes, on leur donne un objectif qui peut être assez lointain, on leur dit allez voir cette roche-là, etc. Et puis le rover, de manière semi-autonome, va essayer de rejoindre ce rocher. Alors, si entre-temps il découvre un rocher qu'on n'avait pas vu, qui lui empêche de passer, il va essayer de le contourner. S'il en découvre un autre plus gros, il va s'arrêter, il va demander des informations. Et puis, de la même manière, il va essayer de vérifier s'il ne va pas s'enliser. Alors, si on continue l'histoire d'ailleurs d'Opportunity, rapidement, donc on avait visité un petit cratère, un moyen cratère de 180 mètres de diamètre. Et donc, à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ? Ah, l'idéal, ce serait d'aller explorer un cratère encore plus gros. Alors, il y en a un cratère encore plus gros, un cratère magnifique qu'on a vu depuis l'orbite, qui fait 800 mètres de diamètre, qu'on appelle le cratère Victoria, mais qui est situé à 7 km au sud. Alors, sachant qu'à cette époque-là, on pensait que la durée de vie des rovers serait relativement courte, 7 km, c'est vraiment très loin. Alors, malgré tout, on s'est dit, bah, il y a que ça à faire, il faut aller explorer encore plus loin dans le passé, comprendre mieux la région, il faut qu'on aille là-bas. Allons-y. Donc, on a lancé les rovers, on les a programmés pour se déplacer. Sur le parcours, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on ne s'est pas ennuyé. On a rapidement retrouvé un des boucliers de protection de la sonde qui était tombée là à côté. Ça fait des images assez extraordinaires. On a un bouclier tout déglingué qui s'est écrasé à la surface. On a même découvert des météorites. On a découvert des météorites rocheuses posées là, au milieu du sable. Alors, sur Terre, on en voit rarement, on en découvre quand même. Mais là, on a vu un caillou. On s'est dit, tiens, quelle drôle de forme. Ah ben, on a déjà vu ça, c'est une météorite. Et à partir de là, on s'est dit, bon, allez, plein sud, le terrain est plat, c'est du sable, allons-y. Alors, on a commencé à partir et rapidement, on arrivait à faire des moyennes de 200 mètres par jour, ce qui est magnifique hein, par rapport à ce qui était prévu, 200 mètres par jour. Alors, évidemment, vous allez me dire, par rapport à n'importe quel vélo ou tricycle sur Terre, c'est rien du tout. Mais pour les rovers automatiques qui doivent faire attention à tout, on fait attention. Alors, pour faire 200 mètres par jour, on avait enlevé pas mal de sécurité. On avait dit, bon, tant que tu vois rien, tu continues. Alors ça, c'était un piège parce que en mai 2005, à un moment donné, la sonde, après avoir vraiment parcouru aisément, donc c'est des kilomètres et des kilomètres, c'est enlisée. C'est enlisée dans une petite, en franchissant une petite dune, elle s'est enlisée, mais pour de bon, comme sur le Paris-Dakar, j'allais dire. Le problème, c'est que là, il n'y a personne pour descendre et mettre des plaques sous les pneus, sous les roues en métal, hein, c'est pas des pneus. Et donc, c'était très difficile. Alors, ça a duré, pour le sortir de là, il a fallu 5 semaines. Bon, c'est pas 5 semaines à faire marche arrière, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, un peu comme tout à l'heure, je vous parlais des pentes pour simuler la descente dans le cratère. Cette fois-ci, on a acheté plein de sable, de talc, on a essayé de recréer la nature du sol localement. On a enlisé la maquette, le simulateur de Opportunity, et puis on a regardé quelle était la bonne méthode. On tourne à droite, un petit coup de roue à gauche, droite, gauche, droite, et on a vu qu'en faisant telle méthode, on arrivait à se ressortir. Et effectivement, on a réussi à sortir le rover de l'ensablage. Alors, les conséquences, ça a été bon de perdre 5 semaines à ce moment-là, mais on a cessé de faire des moyennes aussi extraordinaires. On a roulé beaucoup plus prudemment, malgré tout, quand même, avec une certaine autonomie, mais on a mis pas mal de critères, en particulier, dès qu'on sent qu'une des roues patine, on voit ça parce qu'il y a des capteurs pour ça, on arrête et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais malgré tout, on a réussi à parvenir au cratère Victoria, fin 2006. Et alors là, j'invite tout le monde à aller voir. Allez voir hein, si vous ne suivez plus depuis, ça fait 3 ans qu'elles sont là, plus de 3 ans. Si vous ne suivez plus l'aventure des rovers, bah, je vous invite à retourner, pour ceux qui l'avaient fait dans le passé, retourner sur les sites web et voir les paysages extraordinaires qu'on a découverts en arrivant au bord de cet énorme cratère, encore une fois, 800 mètres de diamètre. Et là, il y a de véritables falaises que le rover voit très très bien. Maintenant, il est en train de faire le tour. On découvre tout le temps des nouveaux paysages, des nouvelles falaises. Alors, va-t-on descendre dans le cratère ? Il faudrait pour bien faire, parce que c'est un peu l'objectif, pour aller explorer plus profondément, et donc plus loin dans le passé, et mieux comprendre l'histoire de ce site. La question est ouverte. En tout cas, j'invite tout le monde à suivre cette histoire, parce que là, vraiment, c'est quand même très spectaculaire de voir ce paysage assez magnifique.
Merci François Forget. Moi, j'invite tout le monde à suivre cette aventure aussi dans un livre que vous avez co-signé avec François Costard, Philippe Lognonnet, qui s'intitule La planète Mars, histoire d'un autre monde, avec une nouvelle édition. Donc, c'est la seconde édition mise à jour. J'espère qu'il y en aura une troisième avec les missions Mars Reconnaissance Orbiter et la continuation de la mission Mars Express. C'est publié donc chez Belin pour la science. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast de Ciel et Espace. Et rendez-vous évidemment au prochain épisode.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage AP et décollage.